France Inter.
Quand je vois cette marée de cœurs battants, ces centaines de milliers de visages souriants, je sens bien qu'un moment décisif de l'histoire de notre pays arrive.
Ce moment décisif dont parle Donald Tusk, le chef de file de l'opposition polonaise, c'est aujourd'hui, avec des élections législatives et un enjeu crucial, la place de la Pologne en Europe et l'avenir de la démocratie. L'ancien chef du gouvernement, au pouvoir de 2007 à 2014, ex-président du Conseil européen, libéral, de droite, a réussi, au début du mois, à rassembler des centaines de milliers de personnes dans les rues de Varsovie. Il pourrait prendre le pouvoir en s'alliant avec la gauche et les centristes, réarimer la Pologne aux valeurs européennes, réconcilier le pays avec Bruxelles, qui prive le gouvernement polonais de 35 milliards d'euros du plan de relance à cause des atteintes à l'indépendance de la justice et à l'état de droit.
La Pologne se situe tout en bas du tableau des pays de l'Union européenne pour ce qui est de la reconnaissance des droits des personnes LGBT. Sur le plan sociétal, la situation est mitigée. Nous comptons en Pologne de plus en plus d'alliés, nos droits sont de plus en plus considérés comme des droits humains ordinaires. Et si l'opposition prend le pouvoir, elle a promis d'introduire une législation en faveur des LGBT.
En face, le PiS, le parti populiste et eurosceptique Droit et Justice, qui gouverne depuis 2015, vise pour ses représentants un troisième mandat. Légèrement en avance dans les sondages, il s'appuie sur un électorat nationaliste, souverainiste et conservateur. Son slogan, une Pologne en sécurité, fait directement écho à la guerre en Ukraine. Le gouvernement consacrera l'an prochain plus de 4% du PIB du pays à la défense et veut doter la Pologne de la première armée de terre d'Europe.
L'armée est particulièrement reconnaissante à ce parti, car grâce à lui, nous avons récupéré de nouvelles unités, acquis du matériel qu'on n'avait pas, et nous avons placé l'armée sur toute la frontière orientale, alors que le parti précédent, celui de Tusk, liquidait notre armée.
Dans cette campagne violente, faite d'insultes et de fausses informations, le Premier ministre Mateusz Morawiecki et le vice-premier ministre, l'omniprésent Jarosław Kaczyński, ont un thème de prédilection, les migrants. La Poste polonaise distribuait ces derniers jours dans les boîtes aux lettres un magazine avec une photo de réfugiés sur un bateau gonflable et ce titre, ils arrivent. Dans un pays où les étrangers représentent moins de 2% de la population, ces migrants qui viennent d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie font peur. Les voisins ukrainiens ont été accueillis dans un premier temps à bras ouverts, mais la solidarité s'essouffle après 20 mois de guerre. Et c'est aux portes de cette guerre, face à la frontière biélorusse, au pied du mur construit par la Pologne, que commence cette émission. Peur de l'Est, défiance à l'Ouest, de quel côté regarde la Pologne? C'est un reportage de Louise Baudet avec l'appui d'Annetta Muller, prise de son Georges Thau.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Voilà, on est à Białowieża, on entend un hélicoptère au-dessus de nos têtes. La zone, effectivement, est quand même très surveillée. C'est une très jolie bourgade d'un peu plus de 2000 habitants, avec des petites maisons en bois alignées le long des rues, très proprettes. C'est charmant. Tout est fait pour que les touristes s'y sentent bien. Il y a beaucoup de restaurants. 300 000 touristes venaient ici chaque année. Mais la moitié ne sont pas revenus depuis le début de la guerre hybride menée par la Biélorussie et depuis le début de la guerre tout court déclenchée en Ukraine par la Russie. L'entrée du parc national de Białowieża est juste à côté. Białowieża, c'est une des dernières forêts primaires d'Europe, c'est donc une réserve naturelle absolument remarquable. Mais aujourd'hui, ceux qui tentent de la traverser, cette forêt, ce sont les migrants que Loukachenko, le président biélorusse, amène le long de cette frontière pour déstabiliser la Pologne et avec elle l'Union européenne. Ça, c'est la guerre hybride. On vient de voir passer la police des frontières, justement, avec les voitures de couleur verte. C'est ainsi qu'on les reconnaît. Tout à l'heure, sur la route, on a été arrêté par la police frontalière qui cherchait des réfugiés. On a dû ouvrir le coffre pour montrer qu'on ne transportait personne. On voit beaucoup ici de camions militaires, de voitures de police. C'est une bourgade aux portes de la guerre où beaucoup de choses ont changé depuis 2 ans.
Dans le ciel polonais, ces hélicoptères seraient-ils biélorusses? Et pour Varsovie, ça ne fait plus aucun doute.
Il a été établi qu'aujourd'hui, le 1er août 2023, il y avait eu une violation de l'espace aérien polonais par deux hélicoptères biélorusses qui effectuaient un entraînement près de la frontière.
Face à la situation, le ministère polonais de la Défense a sollicité l'OTAN et pris une décision radicale.
Nous ordonnons d'augmenter le nombre de soldats à la frontière et d'allouer des forces et des ressources supplémentaires, y compris des hélicoptères de combat.
Alors cet été, les hélicoptères, ils étaient biélorusses. Deux hélicoptères repérés au-dessus de Białowieża. Bonjour monsieur. Bonjour.
Oui.
Ça va, il est un certain de... Vous les avez vus, vous, les hélicoptères, cet été ?
Je ne les ai pas vus, les hélicoptères, mais on les a entendus partout. C'était de la provocation pour inciter la Pologne à répondre. La mentalité de nos voisins de l'Est, on la connaît. Si jamais ils attaquent, il n'y aura plus rien. Tout sera détruit. Il n'y aura plus de civilisation. Le seul argument qu'ils comprennent, c'est la force. Soit ils n'attaquent pas car ils savent qu'ils se feront matraquer, soit ils ne le craignent pas, et alors ils attaquent. C'est la mentalité de l'Est, c'est la mentalité de la Russie.
Mais vous, vous êtes d'accord avec le fait de développer justement l'armée et la défense ?
C'est une question de sécurité. Si vous comparez avec une maison dans laquelle se trouve une famille, eh bien, vous installez une porte, une serrure, un système d'alarme. Vous allez voir l'assureur pour qu'en cas de problème, vous puissiez avoir de l'aide.
Est-ce que c'est très présent dans les esprits ? À la fois la proximité de la guerre, cette menace russe, la question des migrants. Est-ce que c'est quelque chose qui pèse en fait dans votre vie quotidienne ?
C'est pesant parce qu'on n'a aucune tranquillité d'esprit. On ne sait pas ce qui va se passer dans une semaine, dans deux semaines, dans un mois. Évidemment, c'est lié à la guerre en Ukraine. Tant qu'elle dure, ça ne va pas s'arrêter.
Dans les rues. Allez, on va tenter ce restaurant-là. Comment vous appelez-vous ? Quel est le nom de votre restaurant ?
Jolanta Kropiwnicka.
Et voici mon restaurant, Biesiada. Notre cuisine est régionale, absolument délicieuse. Venez dîner, vous pourrez vous en convaincre.
Si on commande, si vous voulez du café, on a le gâteau. La Charlotte, qui est très bonne.
Les clients ont peur. On a même des coups de fil de touristes fidèles qui viennent ici depuis des années. Ils nous téléphonent pour savoir si tout va bien, s'il y a des conditions de sécurité suffisantes. Bien sûr, on leur explique que tout va bien. En fait, il me semble que les médias en font un peu trop. Ils disent que chez nous, à Białowieża, c'est terrible, qu'il y a plein de soldats, beaucoup de troupes, des murs, des migrants. Ça donne un effet d'accumulation.
C'est peut-être aussi parce que le gouvernement polonais parle beaucoup de ces problèmes, de la menace.
Je suis contre le gouvernement actuel. Je pense qu'il devrait simplement abandonner le pouvoir et ne pas faire tout ce remue-ménage. Quant à ce mur qui a été construit à la frontière, je m'interroge là-dessus. Car il est également à l'origine de l'intensification des désaccords entre nous et les Biélorusses. Avant, les touristes biélorusses venaient chez nous à vélo, ils dînaient, ils se promenaient, ils marchaient dans la forêt primaire et rentraient chez eux parce qu'ils avaient un visa de 24 heures. De la même manière, nous pouvions aller là-bas chez eux. Et maintenant, on a un mur, une guerre en Ukraine. Je crois que ce gouvernement exagère un peu.
Przesadza.
Pourquoi il est bicolore?
Pour
vous attirer ici.
Il y a deux types de miel. Le blanc, c'est du colza, et l'autre moitié, c'est du tournesol.
Très bien.
Panie, 200 uli mam.
Naprawdę? Dla dysu wyższy.
Tamtem mieszkam, do Chenówki jest 15-17, od Chenówki 15-30 km.
Il habite à 30 km d'ici. À un moment, tout était bloqué ici. Vous avez pu circuler à ce moment-là?
Ja poruszać się mogę, ale kogo sprzedawać?
Moi, je peux circuler, mais à qui je vais vendre?
Et les touristes, ils sont revenus?
Un quart de ce qu'il y avait il y a deux ans. Les migrants arrivent, alors ils ont peur ici.
Il y a des drames parfois qui se jouent dans la forêt là-bas. Il y a des gens qui sont morts.
Je n'en ai pas entendu parler. J'ai vu des vêtements à un endroit. Il y avait des bottes en caoutchouc, un tas de fringues de migrants. Je ne me suis pas approché parce qu'il y en avait peut-être un derrière un arbre qui aurait pu me planter avec un couteau. Je me suis barré et c'est tout. Tiens, elle va peut-être vous dire deux mots.
Vous vous connaissez? Vous la connaissez bien? C'est une prof à l'école ici, des fois elle achète du miel aussi.
Ce ne sera pas enregistré?
Alors
s'il n'y a pas d'image. Je vous le dis, je suis contre ce mur, on n'en avait pas besoin. À vrai dire, les réfugiés, vous en avez vu, vous?
Moi, il y en a deux qui m'ont abordé.
Moi, j'en ai vu qui couraient avec deux enfants. Je n'ai jamais entendu parler d'attaque. On ne peut pas les rejeter comme ça. Pour moi, c'est incompréhensible. Dites-moi, ils ont violé quelqu'un?
Je vois ce qui se passe à la télé.
La télé, moi heureusement, je ne la regarde pas. On peut être manipulé. Est-ce que vous avez entendu dire qu'il se passait ça ici? Non. Moi, je ne suis pas pour qu'ils traversent comme ça, mais il faut les traiter humainement. Parce que je ne peux pas accepter que des gens gèlent au bord des marais. C'est inimaginable pour moi. Et si c'était vous qui étiez sur la route et que personne ne vous apportait de l'aide? On ne peut pas se comporter comme ça.
La Pologne donne beaucoup.
Mais quelle aide? On les laisse à la merci des animaux sauvages derrière la clôture.
On est manipulé.
Vous dites manipulé sur la base de quoi? Je sais mieux que vous, j'habite à la frontière, je sais ce que je vois. Parmi les gardes frontières, il y a de tout, comme partout. Je
ne
dis pas qu'ils sont tous mauvais, ils font leur travail, mais les Allemands aussi faisaient leur travail pendant la guerre.
On est devant le poste frontière de la Biélorussie. Et là, il y a un monsieur qui fait le ménage, qui est en train de chasser les feuilles mortes devant le portail qui est clos.
Dzień dobry. Dzień dobry. Le mur, c'est ce qu'on voit, c'est ça le mur, la barre verticale.
Au fond, là-bas?
Le grand gris. Avec le fil barbelé dessus.
Au-dessus.
5 mètres de hauteur. Et, voilà.
Et combien de long? Presque 200 km?
200 km.
Parfois, vous voyez des gens qui essayent de passer, ou c'est la nuit, c'est à des moments où personne ne le voit?
Je ne peux
pas me prononcer là-dessus.
Nie wypowiadać się na ten temat. Bo pracujemy razem ze Strażą Graniczną jako pracownicy cywilni, ale nie chcemy się wypowiadać na ten temat.
Je suis employé civil, mais on collabore avec le service frontalier et je ne veux pas me prononcer là-dessus.
A tak jest mądre, spokojnie.
Sinon, c'est calme.
Mojego pobytu w Białowieży życzę.
Bon séjour à Białowieża, je vous souhaite.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Mogę coś zrobić, czy nie można?
No, może.
Voilà, Grzavosz ne peut pas nous parler des migrants. Son travail le tient, dit-il, à un strict devoir de réserve. Il reprend sa tâche du jour, qui est de nettoyer cet espace pourtant déjà très propre devant cette porte infranchissable.
De la Russie à la Bologne, tam comme souhait.
Cześć, kochanie, co tam?
Baśka, patrz, pierwszy raz na żywo się widzę.
Co? Przecież mieszkasz tu już pół roku.
Extrait du film polonais Green Border d'Agnieszka Holland.
$300 now. Je suis Agnieszka Holland, je suis cinéaste polonaise, européenne, française aussi, j'ai fait des films en France. Je suis une vraie européenne avec un grain d'américanité.
Votre dernier film, Green Border, vient de recevoir le prix spécial du jury de la Mostra de Venise. Il est très bien accueilli partout, mais pas dans votre pays, ou plus exactement, certains dans votre pays l'accueillent très mal.
Oui, je raconte les parcours des réfugiés, où les gens se retrouvent au milieu d'une forêt ancienne, avec les rivières, avec le froid, sans pouvoir manger, boire, dans des conditions vraiment infernales. Et le gouvernement fait tout pour que ça ne se voit pas. Et, par contre, il utilise tous les moyens de propagande néfastes en présentant ces réfugiés comme les êtres dangereux, ignobles, les pédophiles, les zoophiles, les terroristes qui viennent pour violer les femmes polonaises, pour montrer que vous voyez les citoyens, on vous protège, ça veut dire fermez-vous.
Vous faites l'objet d'une campagne de dénigrement très violente en Pologne. Le ministre de la Justice polonais a comparé votre travail...
Le ministre d'Injustice.
Le ministre de l'Injustice, vous dites. A comparé votre travail à de la propagande nazie. Est-ce que vous vous attendiez à une telle réaction dans votre pays ?
À vrai dire, je m'attendais à des réactions assez violentes, mais je pensais qu'ils ont dépassé un peu de bornes. Ça veut dire que ce ministre de l'injustice, il m'appelle le nazi, la nazie. Et après, à la conférence de la presse, il dit que je suis stalinienne. Je suis Staline et Hitler à la fois. Moi, je pense qu'il y a le potentiel de bon et de mal dans chaque société et on peut encourager l'un ou l'autre. Et beaucoup dépend des autorités politiques, religieuses ou intellectuelles. Mais à la frontière ukrainienne, on a vu que les gens aiment être bons. Ça veut dire qu'ils ont adoré cette image dans le miroir de sa propre bonté. Il faut l'encourager.
$300 now.
Sir, please don't get angry. I give you 300 euros. It's more than dollars, okay?
Aujourd'hui, la communauté ukrainienne en Pologne, ce sont 975 000 bénéficiaires d'une protection temporaire de l'UE. Pour un pays de 37 millions d'habitants, c'est évidemment une immigration massive et soudaine. Ces Ukrainiens n'ont pas eu besoin de faire de demande d'asile. Ils ont accès aux services sociaux et au marché du travail. Le gouvernement polonais a simplifié les procédures pour eux. Alors comment ça se passe concrètement ? On va poser la question aux patrons polonais et aux salariés ukrainiennes d'un restaurant qui s'appelle Skwananka. C'est un restaurant du centre-ville de Lublin.
Je m'appelle Tatiana. Je suis en Pologne depuis un an et demi et je suis venue à cause de la guerre. J'habitais à Jutomir.
Vous êtes venue avec des enfants, toute seule ?
Oui, j'ai trois fils. De 18, 14 et 4 ans.
Ça s'est bien passé ? Vous avez été bien accueillis ici ?
Oui, tout a été très bien. On remercie beaucoup pour l'hospitalité et l'aide qu'on a reçue. Tout s'est très bien passé. L'appartement, je l'ai trouvé toute seule. Ensuite, j'ai cherché du travail, mais ça n'a pas été très difficile. J'ai trouvé par Internet.
D'habitude, quand des étrangers veulent venir travailler en Pologne, il faut qu'ils fassent une demande d'asile. C'est très long, très compliqué. Là, les procédures ont été assez rapides.
Ça a été très facile parce qu'on m'a attribué un identifiant, comme les Polonais. Je n'avais pas de passeport polonais, j'avais seulement le passeport ukrainien, mais j'avais surtout l'identifiant.
Est-ce que vous comptez repartir en Ukraine ou est-ce que vous pensez vous installer ici, peut-être définitivement ?
On est reconnaissant pour l'accueil, mais moi je veux rentrer chez moi.
Je m'appelle Jacek Abramowski, je suis restaurateur, j'ai deux restaurants à Lublin.
Vous êtes patron d'un restaurant où il y a des Ukrainiennes qui sont employées, c'est une chance pour vous ?
Oui, sans aucun doute, les Ukrainiens ont sauvé le marché du travail en Pologne. Je ne peux pas m'imaginer gérer un restaurant sans eux. Ici, on est 20 et la moitié de mon personnel, soit 10 personnes, vient d'Ukraine. Par ailleurs, deux Ukrainiennes s'occupent de notre maman. Sans elles, il n'y aurait personne pour s'en occuper. Et une autre gère nos réseaux sociaux. Donc elles remplissent de nombreuses fonctions. On sait que certaines vont repartir à la fin de la guerre, mais on ne regarde pas si loin parce que de toute façon, on n'a pas d'autre solution. Il faut assurer le bon fonctionnement du restaurant et un service de qualité. Donc on agit ici et maintenant sans se préoccuper de savoir si la guerre va finir demain ou dans un an. Imaginez que vous vous retrouviez dans une situation de guerre dans votre pays. Vous voudriez la même aide de la part des pays voisins, la même amitié, la même empathie. Je ne suis pas d'avis qu'on aide trop, parce que ce n'est jamais trop de faire du bien.
Très bien. Bon, merci beaucoup. On vous libère. Merci beaucoup.
Cette aide aux Ukrainiens s'essouffle, pourtant, sur fond de guerre des céréales. Point clé, c'est l'embargo sur le blé, le maïs ou le colza en provenance d'Ukraine, imposé par la Pologne au mépris des injonctions européennes, et cette réaction violente du président ukrainien Volodymyr Zelensky, mi-septembre, à la tribune de l'ONU.
Il est inquiétant de voir à quel point certains de nos amis européens feignent la solidarité sur la scène politique et font tout un drame avec les céréales. Ils semblent jouer leur propre rôle, mais en réalité, ils préparent le terrain pour Moscou.
La tension a depuis un peu diminué, mais l'altercation a laissé des traces, notamment chez les agriculteurs de la région rurale de Zamojtchi. C'est là, près d'une exploitation, qu'on retrouve Louise Baudet, Aneta Muller et Georges Thau.
Alors ici devant nous, il y a des champs à perte de vue, du blé, du maïs. Cette région autour de Lublin, c'est un peu le grenier à blé de la Pologne. C'est la première région productrice de blé dans un pays où la terre fait vivre presque 30% de la population active. Et le blé, justement, il provoque un conflit entre deux pays qu'on pensait alliés contre la Russie, la Pologne et l'Ukraine. Le blé ukrainien, qui ne peut plus transiter par la mer Noire à cause de la guerre, eh bien, il doit passer par le continent. Et c'est un blé bien moins cher que le blé polonais. Face à la chute des prix qu'a provoqué l'arrivée de ce blé ukrainien sur le sol polonais, Varsovie a fermé ses frontières. Ce qui a provoqué la colère de Volodymyr Zelensky. Le ton a énormément monté ces dernières semaines. Le gouvernement polonais ne veut plus livrer d'armes à Kiev dans un contexte électoral où certains se demandent si on n'aiderait pas un peu trop les Ukrainiens au détriment des Polonais. Le PiS doit absolument conserver le soutien de l'électorat rural et ce soutien, il est peut-être en train de le perdre justement à l'occasion de cette guerre des céréales qui se joue à l'ombre de la guerre en Ukraine.
Interception sur France Inter.
Nazywam się Martin Grün.
Je m'appelle Martin Grün. Mes terres sont situées dans la région de Zamojtchi. Mon exploitation fait une centaine d'hectares. On cultive du blé, du maïs et des pommes de terre. Vous pouvez voir ici les palettes de pommes de terre. Ces pommes de terre, on les produit et on les vend localement.
L'une des raisons pour lesquelles on est ici, c'est la question des céréales ukrainiennes. Et ces céréales, visiblement, ont posé un gros problème au marché local. Quelles ont été les conséquences pour vous, concrètement ?
Oui,
les céréales ukrainiennes, c'est un vrai problème si elles sont vendues sur notre marché local. Les trois dernières années, le coût de production du blé a augmenté de 200 à 250%. Mais le prix de vente, lui, a chuté de moitié. C'est la raison pour laquelle certaines exploitations ont un rendement proche de zéro. Les pommes de terre rapportent correctement, mais certaines céréales comme le maïs, c'est quasiment zéro.
En même temps, le gouvernement polonais a décidé de fermer les frontières. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas d'écoulement de céréales ukrainiennes sur le marché polonais.
Oui,
en théorie, parce qu'on n'en parle pas. Mais en fait, les contrats qui ont été signés l'an dernier continuent d'être honorés. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré le responsable d'une centrale d'achat de céréales. Et il m'a dit que cette année, ils ont l'intention d'acheter 25 000 tonnes de céréales ukrainiennes. On comprend la situation. On comprend que l'Ukraine va vouloir devenir membre de l'Union européenne dans les années à venir. C'est une opportunité, mais ça suscite aussi beaucoup d'inquiétudes. Parce que les plus grandes exploitations que nous avons ici en Pologne, elles sont équivalentes aux exploitations de taille moyenne en Ukraine.
Donc ce serait une concurrence terrible.
Oui, cela représente une concurrence très rude et une situation de monopole qui n'est pas souhaitable. C'est aussi une grande menace pour la souveraineté de la Pologne, parce que si nos exploitations agricoles ne survivent pas, nous allons être dépendants d'approvisionnements alimentaires provenant de l'extérieur.
Comment vous voyez les choses politiquement lors de la prochaine élection? Vous avez déjà décidé pour qui vous allez voter. Qui, à votre avis, peut le mieux défendre les agriculteurs aujourd'hui en Pologne?
Le parti au pouvoir veut évidemment gagner le vote des agriculteurs. Mais depuis un an, on se sent dupé.
Parce
que quand on a donné l'alerte, on nous a dit que ce problème n'existait pas, alors que nous, on le vivait au quotidien.
Je
vous invite à la maison.
Merci. Bon, on va peut-être boire un petit verre d'eau. Les Polonais ont apporté énormément d'aide aux Ukrainiens. Il y a presque 1 million d'Ukrainiens qui aujourd'hui vivent en Pologne et qui vont sans doute y rester encore un certain temps. La Pologne est très proche de l'Ukraine, a livré des armes, a soutenu politiquement Kiev très fortement depuis le début de la guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on n'en fait pas trop pour les Ukrainiens aujourd'hui?
Ce que les Polonais ont en commun, c'est qu'ils sont très hospitaliers et généreux. Est-ce que je pense que c'est trop? Je pense surtout que cette aide a été sous-estimée, insuffisamment appréciée, qu'elle était nécessaire et que les Polonais ont fait ce qu'il fallait. Je pense que ce sacrifice n'a pas été apprécié à sa juste valeur sur la scène internationale.
Vous en voulez à Volodymyr Zelensky qui, à la tribune de l'ONU, a dit que la Pologne faisait semblant d'aider, mais au fond faisait le jeu de la Russie?
Oui, pour moi, ce sont des paroles assez choquantes de la part du président ukrainien, car ici, nous avons essayé d'aider. Je sais ce qui s'est passé en réalité pendant les premiers jours de la guerre. Tout le monde ici a participé. Les agriculteurs de la région de Zamość ont organisé le transport humanitaire vers l'Ukraine, des médicaments, de la nourriture et de tout ce dont les gens avaient besoin. C'est pour ça que je sais qu'il n'y avait aucun intérêt des Polonais dans cette affaire. Il s'agissait simplement d'une aide désintéressée. Et tout ça, on l'a oublié aujourd'hui.
Poland has proven a welcoming haven for Ukrainian citizens, granting them rights practically equal to those of Polish citizens.
In every aspect, humanitarian, political, military, Poland effectively saved Ukraine.
Donc on vient d'être invité à entrer dans une salle qui a l'air d'être une salle municipale. On est dans un... Merci madame. Dans un village à peu près 70 km au sud-est de Lublin. Et par hasard, on est tombé sur ce rassemblement. On nous a invités à entrer dans cette pièce, on nous a invités à nous asseoir, à prendre un peu de soupe. Enfin, vraiment une hospitalité extraordinaire. Comment s'appelle la soupe?
Pogracz.
Pogracz, voilà.
Swojskie bedliny nie ze sklepu, tylko swojskie jakby wyrób taki.
C'est la charcuterie qui est faite maison. C'est pas acheté en magasin, mais c'est fait maison.
Tak, lokalny taki wyrób.
Le produit local. Quel est votre nom?
Gąska Mirosław. Ja jestem tutaj prezesem.
Je suis le président du service des pompiers volontaires.
Reprezentuję tutaj wszystkich strażaków ochotników. W naszej remizie.
Et ici, nous sommes dans la caserne des pompiers.
À quelle occasion êtes-vous réunis aujourd'hui ici?
Nous commémorons le 84e anniversaire d'un massacre commis ici sur la colline de Grabowiec par les soviétiques.
Ici, on dit beaucoup que c'est un fief du Parti Droit et Justice, cette région. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ici les gens votent PiS?
Alors, les gens ont des opinions diverses, mais c'est ce qu'on dit, que la partie orientale de la Pologne est le bastion du PiS. Mais je dois dire que sous le pouvoir précédent, même un chien boiteux ne se serait pas aventuré jusqu'ici, comme on dit en polonais. Le gouvernement du PiS a quand même mis de l'argent. Vous avez vu la route comme elle est, c'est du billard. Sous le gouvernement précédent, c'était trou sur trou. Vous ne seriez pas arrivé jusqu'ici. Vous y auriez laissé une roue ou autre chose.
Je m'appelle Waldemar Pomazanka, je suis militaire parachutiste à la retraite et j'ai servi dans les forces aéroportées.
On est très étonnés parce que nous avons été accueillis alors qu'on ne se connaît pas, c'est vraiment l'hospitalité polonaise.
C'est vrai, nous accueillons toujours comme ça tous ceux qui nous sont sympathiques.
Est-ce que vous vous faites confiance au PiS pour protéger la population polonaise dans cette situation où il y a quand même des complications liées à la guerre?
L'armée est particulièrement reconnaissante à ce parti, car grâce à lui, nous avons récupéré de nouvelles unités, acquis du matériel qu'on n'avait pas, et nous avons placé l'armée sur toute la frontière orientale, alors que le parti précédent, celui de Tusk, liquidait notre armée. J'étais toujours en service actif à ce moment-là. Des unités étaient liquidées, je sais ce que ça veut dire. Je pense que tout le monde ici soutient le PiS.
Et pourquoi pas Donald Tusk ou la coalition civique?
Pour moi qui suis soldat, Tusk et sa bande sont des fossoyeurs de l'armée. Ils ont mis en pièces notre armée, ils ont mis en pièces notre agriculture. Avec eux, les retraités étaient très maltraités. Leurs pensions augmentaient très faiblement. Une poignée de zloty. Comment faire avec des retraites pareilles?
Emilia Boński. Je suis agriculteur. J'ai 80 hectares que j'exploite avec mon fils. Depuis 2015 et l'arrivée au pouvoir du Parti Droit et Justice, beaucoup d'argent a été investi ici. Et maintenant, nous avons des routes aménagées, nous avons le téléphone, Internet. Tout est fait pour aider les habitants dans leur activité professionnelle et dans leur vie quotidienne.
Le Parti Droit et Justice se présente aussi comme le défenseur de valeurs traditionnelles, conservatrices, la famille, la nation. Est-ce que vous vous reconnaissez dans tout ça? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important?
Oui, oui, je m'identifie très fort à ces valeurs. C'est pourquoi j'ai participé aujourd'hui à la commémoration avec mon uniforme de pompier. Avoir la foi, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Beaucoup de Polonais partent travailler à l'Ouest. Et ils reviennent avec la culture occidentale. D'autres cultures nous arrivent aussi de l'Est. Et en tant que société, que cela nous plaise ou non, nous sommes obligés de nous adapter partiellement à ces cultures.
Il faut faire attention à ne pas disparaître, tout simplement, à ne pas être un peu submergé.
Oui, il faut préserver notre culture, car c'est l'une des choses les plus importantes pour nous. Ces cultures nous sont étrangères. Il ne s'agit pas de diviser, il s'agit seulement pour la Pologne de préserver sa propre identité. Les LGBT, par exemple, ce n'est pas une identité. Ils n'ont aucune valeur. La plus grande valeur, c'est la famille et la société dans laquelle on vit. La France aussi devrait renouer avec ses racines chrétiennes. Et je pense que la Pologne, comme membre de l'Union européenne, peut servir d'exemple.
L'identité, les valeurs traditionnelles sont au cœur des discours de Jarosław Kaczyński, qui défend une Pologne chrétienne, conservatrice, souveraine dans une Europe des nations. Une Pologne centralisée où la critique du pouvoir est étouffée et où l'Église catholique est instrumentalisée. C'est à Lublin, ville de près de 300 000 habitants dans l'est du pays, qu'on retrouve Louise Baudet, Aneta Müller et Georges Thau près d'une église.
France Inter. Interception.
Je suis le père Alfred Wierzbicki,
actuellement
chercheur à l'université Marie Curie. Pendant 30 ans et jusqu'à récemment, j'ai travaillé à l'université catholique de Lublin.
L'Église catholique occupe une grande place dans la vie publique et même dans la vie politique en Pologne. Ce n'est pas une nouveauté, ça fait longtemps que c'est le cas.
Non,
ce rôle politique de l'Église catholique n'existe plus depuis longtemps. Elle a pris de l'importance pendant la période communiste. Mais après 1989, l'Église n'a pas trouvé sa place dans le système démocratique et elle s'est retrouvée marginalisée en termes d'influence ou de présence dans la vie publique.
Et aujourd'hui, avec le parti Droit et Justice au pouvoir, la religion est presque instrumentalisée.
C'est peu dire que l'Église est presque instrumentalisée. L'Église est totalement instrumentalisée par le parti Droit et Justice. Et elle en pâtit beaucoup. Non seulement le parti Droit et Justice instrumentalise l'Église, mais il cultive aussi ses tendances les plus conservatrices. Tout d'abord, il a imposé un fort sentiment anti-réfugié en Pologne, mais il a également alimenté l'homophobie. En ce qui concerne les réfugiés, l'Église devrait suivre ce que dit le pape François et mettre en avant la nécessité de les accueillir. Mais l'Église en Pologne n'a pas pu résister face au pouvoir politique qui leur a opposé un non ferme et définitif. C'est comme ça que les propos honteux de Jarosław Kaczyński sur des migrants porteurs de bactéries finissent par devenir plus importants pour les catholiques polonais que les appels des évêques et du pape. Les évêques qui n'ont pas explicitement résisté à ces tendances sont responsables. Et pourquoi ne s'y sont-ils pas opposés? Tout d'abord, ils avaient des intérêts financiers. Ils espéraient que Droit et Justice soutiendraient financièrement l'Église. Par ailleurs, de nombreux scandales pédophiles étaient déjà connus à cette époque. Et Droit et Justice a promis de défendre l'Église.
This feeling inside my bones.
On se trouve dans une petite salle de spectacle au sous-sol d'un bâtiment de la périphérie de Varsovie. Là, c'est la répétition de la chorale Wojciech Gaudi. C'est la première chorale polonaise composée essentiellement, mais pas exclusivement, de personnes LGBT. Misha Czerniak est le fondateur de Wojciech Gaudi. Il en est aussi le chef de chœur.
La Pologne se situe tout en bas du tableau des pays de l'Union européenne pour ce qui est de la reconnaissance des droits des personnes LGBT. Nous ne pouvons pas nous marier. Les personnes trans sont confrontées à de grandes difficultés pour faire leur transition.
Il n'existe aucune protection contre les discours haineux et la police n'enquête pas sur les crimes homophobes. Sur le plan sociétal, la situation est mitigée. Nous comptons en Pologne de plus en plus d'alliés, nos droits sont de plus en plus considérés comme des droits humains ordinaires, et si l'opposition prend le pouvoir, elle a promis d'introduire une législation en faveur des LGBT. Mais il existe également une forte opposition des milieux très conservateurs dans le pays. Même à Varsovie, il y a des endroits où vous y réfléchissez à deux fois avant de tenir la main de votre partenaire. Ce que nous recherchons, ce n'est pas quelque chose de spécial. Nous voulons juste être considérés normalement.
Lors des dernières élections, en 2019, la communauté LGBT avait été spécialement visée. Le PiS, le parti au pouvoir, en avait fait un argument électoral très fort. Est-ce que vous avez aujourd'hui le même sentiment ?
C'est le troisième cycle électoral que nous vivons avec le parti Droit et Justice. Il y a 8 ans, il a ciblé les migrants. Il y a 4 ans, il a ciblé la communauté LGBT. Et nous étions très inquiets de savoir quelle cible ils choisiraient cette année. Le parti au pouvoir a annoncé l'organisation d'un référendum le jour des élections, avec 4 questions posées aux électeurs. On en attendait une sur les LGBT, sur les trans notamment, et en fin de compte, ça n'a pas été le cas. Cette année encore, il est question de migrants. S'ils ne nous ont pas ciblés, c'est probablement parce qu'ils ont calculé, ils calculent beaucoup, qu'en ciblant les femmes ou les LGBT, ils allaient y perdre. Car le soutien à la communauté LGBT et le soutien aux droits des femmes à disposer de leur corps a considérablement augmenté et mobilise une grande partie de la société contre eux.
Les traîtres au sein de l'État doivent être exterminés.
Jarosław Kaczyński.
Oui, ils doivent être moralement exterminés.
Leader du parti de la majorité, 14 août 2023.
Il existe en Pologne un camp de la trahison nationale, un camp puissant qui brigue aujourd'hui le pouvoir. La société doit se défendre. Elle doit empêcher qu'on s'attaque à elle. Une telle société doit être unie, unie dans le patriotisme, le vrai patriotisme, celui qui veut défendre la dignité polonaise et veut défendre la souveraineté polonaise.
Oui, nous voulons continuer à faire partie de l'Europe.
Donald Tusk, chef de file de l'opposition.
Nous voulons continuer à être au cœur de l'Union européenne, car nous sommes vraiment le cœur de l'Union européenne.
27 septembre 2023.
Plusieurs générations ont rêvé de se sentir à la fois patriote polonais et citoyen européen. Ça ne dérange pas la majorité d'entre nous. Nous n'y voyons aucun conflit.
Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, deux visions irréconciliables de la Pologne et 2 décennies d'inimitié, mais un combat des chefs qui ne résume pas le scrutin. Aucun des deux ne peut gouverner seul et les scores des petits partis vont peser lourd. D'un côté, la Confédération, mouvement libertarien d'extrême droite, à la fois premier concurrent et seul allié possible du PiS. De l'autre, 2 alliés probables de l'opposition, Nouvelle Gauche et les centristes de troisième voie. Auront-ils un score suffisant pour entrer au Parlement ? Pas sûr. La donne s'annonce complexe pour Donald Tusk comme pour Jarosław Kaczyński. Ces 2 poids lourds de la scène politique polonaise, il y a un homme qui les connaît bien, Tomasz Orłowski, ancien secrétaire d'État et ancien ambassadeur en France.
Ce sont des gens qui ont marqué tout de même, je dirais, les derniers 30 ans ou au moins 20 ans de la politique polonaise et qui ont tellement personnifié de mouvement des approches de la Pologne, une approche qui est plutôt ouverte et voyant en Europe l'opportunité, et l'autre qui voit en Europe plutôt les dangers dont il préfère trouver la défense dans le modèle de l'État-nation. Vous savez, les 2 approches, quelque part, correspondent à l'état d'esprit du corps électoral. Sauf que, je dirais, cette personnalisation de la politique, ça porte aussi un danger. Ils sont rejetés par une partie du corps électoral.
les deux principaux partis en lice ou coalition ont des visions extrêmement différentes, même antinomiques, de l'Union européenne et de la relation à avoir avec Bruxelles. Quelle Pologne peut-on imaginer dans quelle Europe en fonction des résultats ?
Mais écoutez, nous vivons aujourd'hui l'expérience d'un gouvernement qui met accent sur la méfiance que nous voyons dans plusieurs pays, qui a présidé d'ailleurs à Brexit aussi. Donc nous avons cette Pologne méfiante, et si la droite nationaliste et conservatrice de Prawo i Sprawiedliwość, droit et justice, remporte, on peut se poser même la question s'il ne va pas avoir encore davantage des refus d'appliquer le droit européen, par exemple. De l'autre côté, nous avons une expérience de la Pologne libérale. Si le modèle pro-européen remporte en Pologne, ça serait un signal pour d'autres pays. En revanche, si PiS remporte, ça serait plutôt un triomphe des sceptiques, des mouvements qui se disent, entre guillemets, euro-réalistes, ce qui veut dire Europe à la carte et une Europe qui perd la vitesse.
Peur de l'Est, défiance à l'Ouest, de quel côté regarde la Pologne ? Un reportage de Louise Baudet avec l'appui d'Annetta Müller, prise de son Georges Thau, réalisation Jérôme Chélus, assisté de Martine Messonnier, mixage Delphine Baudet. Vous pouvez réécouter cette émission dès maintenant sur franceinter.fr.